La guerre des boutons, livre 3. La cabane. La construction de la cabane. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux. Charles Baudelaire, La mort des amants. L'absence de Gambette et de Camus et la réserve mystérieuse du général n'avaient pas été sans intriguer fortement les guerriers de Longeverne, qui, individuellement et sous le sceau du secret, étaient venus, pour une raison ou pour une autre, demander à Lebrac des explications. Mais tout ce que les plus favorisés avaient pu obtenir comme renseignement tenait dans cette phrase. « Vous regarderez bien Twiggle ce soir. » Aussi, à 4h10, des munitions en quantité imposante devant eux et le quignon de pain au poing, étaient-ils chacun à son poste, attendant impatiemment la venue des Vellerans et plus attentifs que jamais. « Vous vous tiendrez caché, » avait expliqué Camus. « Il faut qu'il monte à son arbre si l'on veut que ça soit rigolo. » Tous les Longevernes, les yeux écarquillés, suivirent bientôt chacun des mouvements du grimpeur, ennemi gagnant son poste de vigie au haut du foyard de lisière. Ils regardèrent et regardèrent encore, se frottant de minute en minute, les yeux qui s'embuaient d'eau, et ne virent absolument rien de particulier, mais là, rien du tout. Twiggle s'installa comme d'habitude, dénombra les ennemis, puis saisit sa fronde et se mit à accayenner consciencieusement les adversaires qu'il pouvait distinguer. Mais au moment où un geste trop brusque du franc-tireur le penchait de côté afin d'éviter un projectile de Camus, impatienté de voir que nulle catastrophe n'advenait, un craquement sec et de sinistre augure déchira l'air. La grosse branche sur laquelle était juché le Vellerand cassait net, d'un seul coup, et lui dégringolait avec elle sur les soldats qui se trouvaient en dessous. La sentinelle aérienne essaya bien de se raccrocher aux autres rameaux, mais cognée de scie meurtrie de là sur des branches inférieures qui craquaient à leur tour, la repoussée ou se dérobait traîtreusement, elle arriva à terre on ne sait trop comment, mais à coup sûr plus vite qu'elle n'était montée.
« Ouais, ouais, oui, oui, oh là 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 là, la jambe, la tête, le bras !»
Un homérique éclat de rire répondit du gros buisson à ce concert de lamentation. « C'est moi qui te rechope encore, hein ?» railla Camus. « Voilà ce que c'est que de faire le malin et de menacer les autres. » « Ça t'apprendra, sale peine-cul, à me viser avec ta fronde. T'as pas cassé ton verre de monde des fois ? Non ? Il est bon, le cadran. »«
Lâche, assassin, crapule !» ripostaient les rescapés de l'armée des Vellerans. « Vous nous le paierez, bandit, oui, vous le paierez !»
Tout de suite, répondit Lebrac, et s'adressant aux siens. « Hein, si on poussait une petite charge ?»«
Allez, approuva-t-on » Et le hurlement du lancer des 45 Longevernes apprit aux ennemis déjà déroutés et en désarroi qu'il fallait vivement déguerpir si l'on ne voulait pas s'exposer à la grande honte d'une nouvelle et désastreuse confiscation de boutons. Le camp retranché de Vellerand fut dégarni en un clin d'œil. Les blessés par enchantement retrouvèrent leurs jambes, et même Twiggle, qui avait eu plus de peur que de mal et s'en tirait à bon marché, avec des égratignures aux mains, des meurtrissures aux reins et aux cuisses, plus un œil au beurre noir.
Nous voilà au moins bien tranquilles, constata Lebrac l'instant d'après. Allons chercher l'emplacement de la cabane. Toute l'armée revint près de Camus, lequel était descendu de l'arbre pour garder momentanément le sac confectionné par la Marie Tintin et qui contenait le trésor deux fois sauvé déjà et 14 fois cher de l'armée de Longeverne. Les gars se renfoncèrent dans les profondeurs du gros buisson afin de regagner sans être vus l'abri découvert par Camus, la chambre du conseil comme l'avait baptisé la crique, et de là, divergé vers le haut par petits groupes pour rechercher, parmi les nombreux emplacements utilisables, celui qui paraîtrait le plus propice et répondrait le mieux aux besoins de l'heure et de la cause. 5 ou 6 bandes s'agglomérèrent spontanément, conduites chacune par un guerrier important et immédiatement se dispersèrent parmi les vieilles clairières abandonnées, examinant, cherchant, furetant, discutant, jugeant, s'interpellant. Il ne fallait pas être trop près du chemin ni trop loin du gros buisson. Il fallait également ménager à la troupe un chemin de retraite parfaitement dissimulé afin de pouvoir se rendre sans danger du camp à la forteresse. Ce fut la crique qui trouva. au centre d'un labyrinthe de carrières, une excavation comme une petite grotte offrait son abri naturel qu'un rien suffirait à consolider, à fermer et à rendre invisible aux profanes. Il appela par le signal d'usage le braquet Camus et les autres, et bientôt tous furent devant la caverne que le camarade venait de redécouvrir, car tous parbleu la connaissaient déjà. Comment ne s'en était-il pas souvenu ? Pardier, ce sacré Lacrique avec sa mémoire de chien, il se l'était rappelé tout de suite. 20 fois, en effet, il avait passé là au cours d'incursion dans le canton en quête de nids de merle, de noisettes mûres, de prunelles gelées ou de guilleries boutons, reins tristes. Les carrières précédentes faisaient comme une espèce de chemin creux qui aboutissait à une sorte de carrefour ou de terre-plein bordé du côté du haut par une bande de bois rejoignant le terré et semé vers le bas de buissons entre lesquels des sentiers de bêtes se rattachaient en coupant le chemin au prébois qui se trouvait derrière le gros buisson. Toute l'armée entra dans la caverne. Elle était en réalité peu profonde, mais se trouvait prolongée, ou plutôt précédée, par un large couloir de roc, de sorte que rien n'était plus facile que d'agrandir son abri naturel en plaçant sur ses deux murs, distants de quelques mètres, un toit de branches et de feuillages. Elle était d'autre part admirablement protégée, entourée de tous côtés, sauf vers l'entrée, d'un épais rideau d'arbres et de buissons. On rétrécirait l'ouverture en élevant une muraille large et solide avec les belles pierres plates qui abondaient et on serait là-dedans absolument chez soi. Quand le dehors serait fait, on s'occuperait de l'intérieur. Ici, les instincts bâtisseurs de Lebrac se révélèrent dans toute leur plénitude. Son cerveau concevait, ordonnait, distribuait la besogne avec une admirable sûreté et une irréfutable logique.
Il faudra, dit-il, ramasser dès ce soir tous les morceaux de planches que l'on trouvera. Des lattes, des baudrillons, les vieux clous, les bouts de fer. Il chargea l'un des guerriers de trouver un marteau, un autre des tenailles, un troisième un marteau de maçon. Lui apporterait une hachette, Camus une serpe, Tintin 1 mètre, en pied et en pouce. Et tous, ceci était obligatoire, tous devaient chiper dans la boîte à ferraille de la famille au moins 5 clous chacun, de préférence de forte taille, pour parer immédiatement aux plus pressantes nécessités de construction, savoir entre autres l'édifice du toit. C'était à peu près tout ce qu'on pouvait faire ce soir-là. En fait de matériaux, il fallait surtout de grosses perches et des planches. Or, le bois offrait suffisamment de fortes coudres droites et solides qui feraient joliment l'affaire. Pour le reste, Lebrac avait appris à dresser des palissades pour barrer les pâtures. Tous savaient dresser des clés et, quant aux pierres, il y en avait, dit-il, en veux-tu, n'en voilà. N'oubliez pas les clous, surtout, recommanda-t-il. On laisse le sac ici, interrogea Tintin. Mais oui, fit Lacrique, on va bâtir tout de suite, là au fond, avec des pierres, un petit coffre, et on va l'y mettre bien au sec, bien à l'abri. Personne ne veut venir l'y trouver. Lebrac choisit une grande pierre plate qu'il posa horizontalement, non loin de la paroi du rocher, avec 4 autres plus épaisses. Il édifia 4 petits murs, mit au centre le trésor de guerre, recouvrit le tout d'une nouvelle pierre plate et disposa l'entourer irrégulièrement des cailloux quelconques afin de masquer ce que sa construction pouvait avoir de trop géométrique pour le cas, bien improbable, où un visiteur inopiné eût été intrigué par ce cube de pierre. Là-dessus, joyeuse, la bande s'en retourna lentement au village, faisant 1000 projets, prête à tous les vols domestiques, aux travaux les plus rudes, aux sacrifices les plus complets. Ils réaliseraient leur volonté. Leur personnalité naissait de cet acte fait par eux et pour eux. Ils auraient une maison, un palais, une forteresse, un temple, un panthéon, où ils seraient chez eux, où les parents, le maître d'école et le curé, grands contre-carreurs de projets, ne mettraient pas le nez, où ils pourraient faire en toute tranquillité ce qu'on leur défendait à l'église, en classe et dans la famille, savoir se tenir mal, se mettre pieds nus ou en manches de chemise, ou à poil, allumer du feu, faire cuire des pommes de terre, fumer de la viande, et surtout, cacher les boutons et les armes. « On fera une cheminée, disait Tintin. Des lits de mousse et de feuilles, ajoutait Camus. Et des bancs et des fauteuils, renchérissait Grand Gibus. Surtout, calez tout ce que vous pourrez en fait de planches et de clous, recommanda le chef. Tâchez d'apporter vos provisions derrière le mur ou dans la haie du chemin de la Saute. On reprendra tout demain en venant à la besogne. » Ils s'endormirent fort tard ce soir-là. Le palais, la forteresse,
Le temple, la cabane hantaient leur cerveau en ébullition. Leurs imaginations vagabondaient, leurs têtes bourdonnaient, leurs yeux fixaient le noir, les bras s'énervaient, les jambes gigotaient, les doigts de pied s'agitaient. Qu'il leur tardait de voir poindre l'aurore du jour suivant et de commencer la grande œuvre. On n'eut pas besoin de les appeler pour les faire lever ce matin-là, et bien avant l'heure de la soupe, ils rôdaient par l'écurie, la grange, la cuisine, le charis, afin de mettre de côté les bouts de planche et de ferraille qui devaient grossir le trésor commun. Les boîtes à clous paternelles subirent un terrible assaut. Chacun voulant se distinguer et montrer ce qu'il pouvait faire, ce ne fut pas seulement 200 clous que le braque le soir à sa disposition, mais 523 bien comptés. Toute la journée, il y eut du village au gros tilleul et au mur de la saute, des allées et venues mystérieuses de gaillards aux boulouses gonflées, à la démarche pénible, aux pantalons raides, dissimulant entre toile et cuir des objets hétéroclites qui lui étaient fort ennuyeux de laisser voir aux passants. Et le soir, lentement, très lentement, le braque arriva par le chemin de derrière au carrefour du vieux tilleul. Il avait la jambe gauche raide lui aussi et semblait boiter. « Tu t'as fait mal ?» interrogea Tintin. « T'as tombé ?» reprit la crique. Le général sourit du sourire mystérieux de bas de cuir ou d'un autre, d'un sourire qui disait à ses hommes « Vous n'y êtes point ». Et il continua à bancaler jusqu'à ce qu'ils fussent tous entièrement dissimulés derrière les haies vives du chemin de la saute. Alors il s'arrêta, déboutonna sa culotte, saisit contre sa peau la hache à main qu'il avait promis d'apporter et dont le manche enfilé dans une de ses jambes de pantalon donnait à sa démarche cette roideur claudiquante et disgracieuse. Ce fait, il se reboutonna et pour montrer aux amis qu'il était aussi ingambe que n'importe lequel d'entre eux, il entama, brandissant sa hachette au centre de la bande, une sorte de danse du scalp qui n'aurait pas été déplacée au milieu d'un chapitre du Dernier des Mohicans ou du Coureur des Bois. Tout le monde avait ses outils, on allait s'y mettre. Deux sentinelles toutefois furent postées aux chaînes de Cantu pour prévenir la petite armée dans le cas où la bande de l'Aztèque serait venue porter la guerre au camp de Longeverne, et l'on répartit les équipes. « Moi, je ferai le charpentier, » déclara le braque. « Et moi, je serai le maître maçon, » affirma Camus. « C'est moi que je poserai les pierres avec grand gibus. Les autres les choisiront pour nous les passer. » L'équipe de le braque devait avant tout chercher les poutres et les perches nécessaires à la toiture de l'édifice. Le chef de sa hachette les couperait à la taille voulue et en assemblerait ensuite quand le mur de Cantus serait bâti. Les autres s'occuperaient à faire des clés que l'on disposerait sur la première charpente pour former un treillage analogue aux lattices qui supportent les tuiles. Ce lattice-là, en guise de produit de Montchanin, supporterait tout simplement un ample lit de feuilles sèches qui serait maintenu en place, car il fallait prévoir les coups de vent, par un treillage de bâtons. Les clous du trésor soigneusement recomptés allèrent se joindre aux boutons du sac et l'on se mit à l'œuvre. Jamais celles te narguant le tonnerre à coups de flèches, compagnons glorieux du siècle des cathédrales sculptant leurs rêves de pierre, volontaires de la grande révolution s'enrôlant à la voix de Danton 48 arts plantant l'arbre de la liberté, n'entreprirent leur besogne avec plus de fougue joyeuse et de frénésie enthousiasme que les 45 soldats de Le Braque édifiant, dans une carrière perdue des prébois de la Saute, la maison commune de leurs rêves et de leurs espoirs. Les idées jaillissaient comme des sources au flanc d'une montagne boisée, les matériaux s'accumulaient en monceaux. Camus empilait les cailloux. Le Braque, poussant des « Oh !» formidables, cognait et tranchait déjà à grands coups, ayant trouvé plus pratique, au lieu de fouiller le taillis pour y trouver les poutrelles, de faire enlever dans l'état voisin de la coupe une quarantaine de fortes perches qu'une corvée de 20 volontaires était allée voler sans hésitation. Pendant ce temps, une équipe coupait des rameaux, une autre tressait des clés, et lui, la hache ou le marteau à la main, entaillait, creusait, clouait, consolidait la partie inférieure de sa toiture. Pour que la charpente fût solidement arrimée, il avait fait creuser le sol afin d'emboîter ses poutres dans la terre. Il les entourerait, pensait-il, de cailloux enfoncés de force et destinés autant à les maintenir en place qu'à les protéger de l'humidité de la terre. Après avoir pris ses mesures, il avait ébauché son châssis et maintenant il l'assemblait à force de clous avant de l'ajuster dans les entailles creusées par Tintin. Ah, c'était solide, et il l'avait éprouvé en posant l'ensemble sur quatre grosses pierres. Il avait marché, sauté, dansé dessus. Rien n'avait bougé, rien n'avait frémi, rien n'avait craqué.
C'était de la belle ouvrage, vraiment. Et jusqu'à la nuit noire, même après le départ du gros de la bande, il resta là encore avec Camus, la Crique et Tintin, pour tout mettre en ordre et tout prévoir. Le lendemain, on poserait le toit et on ferait un bouquet, parbleu, tout comme les charpentiers lorsque la charpente est achevée et qu'ils prennent le chat. L'embêtement, c'est qu'on n'aurait pas un litre ou deux à boire pour commémorer dignement cette cérémonie. « Allons-nous-en, » fit Tintin. Et ils rejoignirent le bas de la saute et la carrière à Pépio en passant par la chambre du conseil. « Tu m'as toujours pas dit comment que t'avais trouvé ce coin-là, hé, Camus ?» rappela le général. « Ha ha !» répondit l'autre. « Eh ben voilà. Cet été, nous étions au champ avec Titine de chez Jean-Claude, et puis le berger du Poron, tu sais, celui de l'Éviron, qui miguait tout le temps. Et puis, il y avait encore les deux ronfus de sur la côte, qui sont à mettre maintenant. Alors on a songé, si on s'amusait à dire la messe. Le berger du Poron a voulu faire le curé. Il a ôté sa chemise et il l'a passée sur ses habits pour avoir, comme qui dirait, un surplus. On a fait un hôtel avec des cailloux et des bancs aussi. Les deux ronfus étaient les servants, mais ils n'ont pas voulu mettre leur chemise sur leur tricot. Ils ont dit que c'était parce qu'elles étaient déchirées, mais je parierais bien que c'était parce qu'ils avaient fait dedans. Enfin bref, le berger nous a mariés, la Titine et moi. T'avais pas de bague pour y mettre le doigt ? J'y ai mis des bouts de tresse. Et la couronne ? On avait du chevrefeuille. Ah ! Oui. Et puis l'autre avait un paroissien. Il a dit des Dominus vobiscum, Oremus prend tes puces, Secondum sécula, un tachichi, quoi, comme le noir. Kif kifre. Puis après, il t'a mis sa est, allez, en paix, mes enfants. Alors on est partis tous les deux, la Titine, et on leur a dit de ne pas venir. Que c'était la nuit de noces, que ça ne les regardait pas, qu'on resterait pas longtemps et qu'on reviendrait le lendemain matin pour la messe des parents défunts. On a foutu le camp par les buissons et on est venu juste tomber là, à cette carrière où ce que nous venons de passer. Alors on s'est couché sur les cailloux. Et puis je l'ai embrassé, pardine, c'est tout. Tu y as pas mis ton doigt au... Penses-tu, mon vieux, pour me l'emplir de jus, c'est bien trop sale. Bah, y avait pas de danger. Et puis, qu'est-ce qu'aurait pensé la ta vie? C'est vrai que c'est sale, les femmes. Et encore, ce n'est rien quand elles sont petites, mais quand elles viennent grandes, leurs pantés sont pleins de fourbis. Pouah ! Fit Tintin, tu vas me faire dégobiller. Filons, filons, coupa le braque. Voilà 6h30 qui sonnent à la tour, on va se faire attraper. Et sur ces réflexions misogynes, ils regagnèrent leur pénate.